Alors donc, ce ne sera pas un objet aujourd'hui, ça c'est déjà fait, ce sera une scénette. Alors j'appelle mes acteurs, il y a Elisabeth, il y a Lisa, il y a Nathanaël, il y a Olivia, oui Olivia au piano, voilà. Il y a Suzanne qui se prépare, voilà. Bon, c'est une présentation, petite présentation visuelle pour introduire ce que j'avais à cœur de vous partager.
Je vais rester ici, parce qu'il tient.
Non mais écoute, ça va, quand même. Non, ça va aller. Voilà, donc, ils viennent, tout le monde vient là ? Elisabeth, tu viens ? Voilà. Ah oui, c'est dimanche, aujourd'hui. Donc, Janine représente le chrétien moyen, hein, qui aime la présence de Dieu. Elle aime. Donc, voilà, elle est avec tous les frères et sœurs dans la présence de Dieu. Et il y a un appel à se positionner sous les ailes du Très-Haut, un temps d'onction, un temps prophétique. Donc elle se positionne sous les ailes du Très-Haut et elle est trop heureuse. La joie, la paix, la guérison sous les ailes du Très-Haut, c'est trop, trop, trop bien. Voilà. Et puis après ce temps béni, ce temps d'onction, elle est revêtue. Alors Suzanne nous fait le Saint-Esprit, elle est revêtue de la présence de Dieu. Voilà. Et elle va repartir, elle va quitter ce local revêtue de la présence de Dieu. Hein? Voilà. Donc elle va partir dans sa semaine. Oui. Voilà, donc elle quitte le local, l'église, voilà. Elle repart avec sa petite voiture. Mais elle est revêtue, remplie de la présence de Dieu. Tout va bien. Elle demeure. Comme dit Jean 15, elle demeure dans l'amour de Dieu, dans la présence de Dieu, c'est beau. Voilà, et elle repart. Donc, notre chrétienne dans la louange, c'est des louanges, vous savez, voilà, arrive le lundi, elle travaille dans des bureaux, c'est administratif, voilà, elle est même en responsabilité dans les bureaux, elle est toujours dans la louange, c'est lundi matin, tout va bien. Et puis arrive une circonstance, pas prévue. Le facteur. Oh, ça a l'air d'être un recommandé. Un recommandé. Attends, tu sais, tu fais signer quand même que c'est recommandé. Voilà. Recommandé. Elle bénit le facteur, tout va bien. Et après, elle ouvre le recommandé. C'est un vrai courrier qui n'a pas été ouvert. Et je sais ce qu'il y a dedans, je peux vous dire, hein, parce que voilà, c'est du vrai. Elle peut ouvrir, oui. Ouh là 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 là. On réclame des sous. Elle n'a pas les sous en caisse. Ça c'est du vécu. Hein. Je peux vous dire, c'est vraiment du vécu. Ça fait trop bien quand même de ne pas être dans le rôle là. D'être... Les caisses sont vides. Et là, il va se passer quelque chose de vraiment désolant. Elle va totalement, mais alors totalement, oublier qu'elle est sous la présence de Dieu. Elle va regarder les circonstances, c'est absolument désolant, et elle va sombrer dans l'océan des soucis, de l'inquiétude, de l'agitation. L'onction du dimanche est complètement oubliée. Et pire que ça, elle va maintenant confronter un problème relationnel. Alors, on y va. Elle ne sait pas, mais elle va vers le problème relationnel. Non seulement il y a les circonstances opposées, mais maintenant, problème... Alors, voilà, elle va vers la... Voilà. Hein. Elle est dans tous ses états, déjà, agitée, tout ça. Non, il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. Et là arrive, on va dire, un collègue. Ouais. Alors... le chrétien, il va vers la porte, mais à la porte, il y a qui ? Il y a un collègue pas en forme non plus. Et vous remarquez le doigt accusateur. Ça tombe dans l'agitation, dans la culpabilité. Et doucement, doucement, ça devient mauvais, là. Problème relationnel, l'accusation, la justification, la culpabilisation. Bon, on va... doucement, là. Dans quel état, à votre avis, se trouve notre chrétienne moyenne ? C'est pas terrible, hein ? C'est pas terrible. Combien de temps lui faudra-t-il pour rentrer en elle-même ? Apparemment, il faut du temps. Il y a un travail de l'esprit là qui se fait. Elle rentre en elle-même. On dirait qu'il y a la repentance qui commence à venir. Vous remarquez que la présence de Dieu, elle est toujours absolument disponible. Hein. C'est juste elle qui doit revenir, quoi. Et voilà, l'histoire se termine bien. Elle a retrouvé le chemin de la présence de Dieu. Qui se reconnaît dans ses hauts et ses bas de la vie chrétienne ? Qui arrive à ne jamais, jamais quitter la présence de Dieu, quoi qu'il arrive ? Voilà, merci beaucoup. Alors j'avais prévu peut-être une bonne suite, mais bon, on va peut-être s'arrêter là. Hein. Nathanaël, il voulait faire le... Ouais. Merci beaucoup, Janine. Oui. Alors, la semaine dernière, Denis nous a fait part de notre appel à rentrer dans Terre Promise. Et puis qu'il y avait une partie du peuple encore dans le désert, une autre partie déjà dans la terre promise. Notre héritage, c'est d'entrer dans la terre promise. Et je voudrais un peu vous donner la suite de la semaine dernière, c'est-à-dire quel est notre positionnement pour être vraiment gagnant et entrer pleinement dans cette terre promise. Donc un positionnement, c'est effectivement se placer et demeurer sous les ailes de l'Éternel. Alors, il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit « Je crie de joie à l'ombre de tes ailes ». Quelqu'un pourrait me dire qui était-ce ? « Je crie de joie à l'ombre de tes ailes ». Qui c'est qui a dit ça ? Oui ? David. Est-ce que... Bonne réponse. Maintenant, suite. Quelles étaient ses circonstances ? Il était roi, il avait vaincu tous les ennemis. Tout allait bien, il régnait à Jérusalem, le paradis sur terre, maison de prière 24-24, et il disait « Je crie de joie à l'ombre de ses ailes ». Vrai ou pas ? Archi faux. Quand il a dit, psaume 63, là, « Je crie de joie à l'ombre de tes ailes », il était en fuite dans le désert. À la tête d'Israël, il y avait un roi qui avait des accès de démence très réguliers, qui lui en voulait à mort, de manière totalement injuste, et qui le poursuivait pour le détruire physiquement. Comme circonstance, mon petit recommandé à côté, c'est rien du tout, franchement. Vous voyez ? Circonstance abominable, quand même. Ça, c'est David. Il n'y avait pas de maison, il était dans le désert, dans les grottes, à se cacher, à fuir, sans arrêt, sans arrêt. Et ce gars-là, dans cette circonstance-là, il ose dire « Je crie de joie à l'ombre de tes ailes ». Et il vivait, en plus. C'est incroyable, ça. Donc, c'est vraiment David, ce cœur selon Dieu. Hein. Il vivait... La présence de Dieu, l'abondance de Dieu, les mets succulents de la présence de Dieu, dans des circonstances abominables. Il n'y a pas plus abominable quand même. Être poursuivi par une haine personnelle, il n'y a pas pire quand même. En plus, par quelqu'un qui était en autorité. De tous les côtés, il y avait les ennemis, les Philistins, les autres ennemis, Israël entouré d'ennemis, et à la tête d'Israël, un roi qui n'était pas du tout dans l'ordre de Dieu. Tout était désolant autour de David, franchement. Et là, il arrive à dire ça. Et pour nous, il y a une formidable interpellation et aussi une promesse de Dieu. Quelles que soient les circonstances, quel que soit notre gouvernement, quel que soit l'état de l'Église, quel que soit l'état de notre famille, quel que soit notre état à nous, il y a un lieu spirituel où il y a une abondance extraordinaire sous les ailes de l'Éternel. Il y a une abondance. C'est déjà, je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne ça dans une position de foi, c'est là. Et vous avez, y a plein d'endroits où on parle des ailes de Dieu, hein, c'est les ailes de l'Éternel. Vous avez aussi psaume 91, bien sûr, hein, tu trouveras un refuge sous ses ailes, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc il y a un lieu de repos. Ça, c'est déjà la très très bonne nouvelle, il y a un lieu de repos, mais non seulement de repos, mais d'abondance, mais de joie. C'est extraordinaire. Et c'est vraiment... Vous avez ça aussi dans l'Apocalypse. Vous avez un horrible dragon. Bon, là, c'est l'actualité, hein, l'Apocalypse. C'est pas du tout du futur. On est là plein dedans. Vous avez cet horrible dragon qui poursuit la femme d'une haine terrible, celle qui a enfanté l'enfant mâle, vous savez. Elle le poursuit. Et puis, vous avez ces ailes du grand aile qui lui sont données à cette femme. Elle a un abri dans le désert. Elle est nourrie. Très bien nourrie. Hein, elle est nourrie. Elle est en sécurité sous les ailes de l'aigle. Elle est portée, elle est en sécurité totale, quoi. Alors que le dragon veut sa peau, quoi. Donc ça c'est nous maintenant, hein. Il y a quelqu'un qui veut à mort détruire l'Église. Et puis on a ce lieu de repos, ce lieu de protection sous les ailes du Très-Haut. Alors ça c'est vraiment une super super nouvelle. Et je crois qu'il y a vraiment un appel fort de Dieu à dire venez sous mes ailes et demeurez sous mes ailes. Mais elles sont là absolument totalement disponibles. Alors, il y a un autre endroit dans la Bible, à part outre David, où on parle des ailes. Et là, c'est une autre idée intéressante, c'est dans le livre de Ruth. Alors, Ruth, je rappelle brièvement l'histoire, une Moabite, rien de chrétien, on va dire, hein, pas du tout juive, rien du tout. Ils avaient d'horribles idoles, hein, les Moabites. Et puis, une vie brisée par un veuvage prématuré. Pas d'enfant, veuve, un deuil, rien à quoi se raccrocher. C'est juste une lumière, le Dieu, la foi de sa belle-mère, qui est une lumière pour elle. Et bon, elle décide, hein, d'aller vers cette lumière. Donc elle quitte Moab, déjà, première étape, et elle va à Bethléem, lieu d'origine de sa belle-mère. Il n'y a pas de famille, il n'y a plus que la belle-mère, quoi. Elle a quitté son pays, voilà, dénuement, dépouillement. Et puis là, je ne veux pas dans le détail de Ruth, mais simplement par rapport aux ailes. Elle se réfugie sous les ailes de l'Éternel, et elle trouve un premier refuge, c'est-à-dire dans les champs de Boaz. Alors elle glane, hein, elle est dans les servantes, mais il y a un lieu de protection, et puis Boaz est gentil, est vraiment bon avec elle, lui donne du blé en plus, donc pour elle, pour sa belle-mère. Donc elle a provision, protection. C'est déjà pas mal, hein, sous les ailes de Dieu, provision, protection. Déjà bien, hein, quand même. C'est une première étape, bien. Elle n'est plus à Moab, elle est à Bethléem. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et vous avez cette expression sous les ailes d'Éternel qui revient en fait deux fois dans le livre de Ruth. Une fois, effectivement, quand elle est remarquée par Boaz et puis lui dit, ben voilà, tu t'es placée sous les ailes d'Éternel, et puis il lui dit tout ce qu'il va faire de bien pour elle. Mais il y a une deuxième étape. Et celle-là, c'est beaucoup, beaucoup plus fort. En fait, elle va se placer sous les ailes de l'Éternel en évoquant donc le mariage, hein, l'union avec Boaz. Elle sera plus seulement comptée parmi les servantes, protégée, nourrie. Elle va devenir l'épouse de Boaz. Et ça, c'est une autre dimension. C'est une dimension d'intimité, une dimension d'autorité, une dimension de repos. Elle ne va plus être à glaner dans les champs comme les servantes. Elle est dans la maison de Boaz. C'est la deuxième étape. Et nous, au milieu de nous tous, on est à différents niveaux. Il y en a peut-être qui sont à Moab. ils ne connaissent même pas la maison du pain. Hein. Ils ne savent pas du tout. Ils sont dans le monde, hein, Moab. Ou peut-être qu'ils sont revenus à Bethléem, mais ils sont dans d'autres champs. Ou peut-être qu'ils sont en train de glaner, mais un peu, vous savez, fils aîné, on travaille pour Dieu, mais il n'y a pas de statut d'épouse, quoi. Et puis, il y a l'intimité de l'épouse. Ça, c'est le stade extrême, quoi, l'intimité. Et puis, elle va demeurer dans la maison de Boaz. Elle va profiter de tout, la richesse et la bonté. Et puis aussi, elle va connaître Boaz. Elle ne va pas seulement le connaître comme patron ou comme gentil voisin, ou comme membre de sa famille, elle va le connaître vraiment comme époux. Et ça change tout. Alors, sous les ailes de l'Éternel, effectivement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, bon, il y a plusieurs choses qui se passent. On a la paix, on a la joie, on a le repos, mais on a aussi la connaissance de Dieu. Et en fait, connaître Dieu, il y a ce psaume qui dit, psaume 25, verset 14, « La pensée secrète de Dieu est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance. » Il y a une connaissance de Dieu qui vient, alors qu'on est sous ses ailes, il va nous entraîner dans sa connaissance. Et en fait, Dieu, c'est quelqu'un d'extraordinairement divers, d'extraordinairement riche. Il y a une personnalité fascinante, absolument fascinante, parce qu'elle est... C'est immense, Dieu. C'est immense, immense, immense. Et en fait, chacun de nous, on connaît, quand on a commencé à marcher avec Dieu, on connaît certaines facettes du caractère de Dieu. Certaines facettes. Et chacun de nous, on connaît des facettes peut-être différentes. On est chacun à un stade différent de connaissance. Alors, par exemple, quand on est jeune converti, on découvre Jésus l'ami, Jésus le berger. Et puis, c'est super, hein, vraiment, vraiment, on est heureux comme tout. Celui qui porte ses petits agneaux dans ses bras, et puis qui nous guérit, qui nous restaure, c'est fabuleux. Mais il n'y a pas que ça. Si toute sa vie chrétienne, on reste au stade Jésus l'ami et le berger, on passe à côté d'énormément, énormément de choses. Il y a tellement, tellement d'autres choses. Et je crois que le Saint-Esprit, ce matin, il voudrait vous dire, mais cherche à me connaître. Je suis prêt à me laisser découvrir par toi, mais cherche à me connaître. J'ai tellement, tellement, tellement plus à te faire découvrir de ma personne. En fait, la personne de Dieu, si on peut prendre une image, c'est comme un immense château avec extraordinaire, avec des tas et des tas, des tas de pièces. Et chaque pièce est plus belle l'une que l'autre, avec des tas de trésors dans chaque pièce. Alors, ce qui peut aider, c'est les noms de Dieu dans la Bible. Vous avez plein, plein, plein de noms de Dieu. Et chaque nom, c'est une porte pour une chambre au trésor. Par exemple, je suis en train de découvrir Dieu le Créateur. Après des années de conversion, de vie chrétienne, ben, Dieu Créateur, j'ai plein, 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 plein de choses à découvrir, voyez. Alors ça, c'est... Mais il y en a qui ont besoin de connaître Jésus, le bien-aimé du Cantique des Cantiques. Surtout, c'est un monde, ça aussi. Et puis, il y en a qui ont besoin de découvrir Jésus Emmanuel, Dieu avec nous. Pas le Dieu distant, lointain, jupitérien. Non, le Dieu très, très, très présent, très proche. Dieu Emmanuel. C'est aussi un monde. Après, vous avez El Gibor, le puissant. Après, vous avez Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Et puis, celui qui guérit. Et puis, celui qui est notre justice, Sidkenu. Et puis, celui qui est Adonai, le Seigneur des Seigneurs. Enfin, je crois que chaque nom nous ouvre à un monde. Un monde. Parce que Dieu, c'est sans fin. On va passer l'éternité à le connaître, vous savez. Alors, c'est super de commencer maintenant parce que c'est passionnant. Dieu est quelqu'un d'absolument passionnant. Et je crois qu'il veut vraiment nous dire, mais vous connaissez que la superficie de qui je suis. Allez plus loin, allez plus profond. Et il y a vraiment un défi qui nous a lancé par rapport à ça. Et notamment, quelque chose d'énorme, c'est, comme je disais, le verset psaume 25, 14, c'est le Dieu de l'Alliance, connaître l'Alliance. Et là, je fais une petite parenthèse, le Dieu de l'Alliance, bon, il y a la première alliance avec Noé, mais on ne peut pas connaître le Dieu d'Alliance si on ne connaît pas, si on ne comprend pas la relation de Dieu avec Israël. En fait, je me suis dit, en préparant ce message, je me suis dit, en fait, c'est, l'Église, très longtemps, elle a été dans l'attitude d'une dame qui tombe amoureuse de son futur mari et qui lui dit, eh ben, chérie, je t'aime énormément, passionnément, toi, mais alors, ta famille d'origine, ça ne m'intéresse pas, ta terre d'origine, non, c'est pas, je ne vois pas l'intérêt, ton histoire avant de me rencontrer, ça, non plus, ça ne m'intéresse pas. L'Église, elle a exactement fait ça. À votre avis, qu'est-ce que doit ressentir le fiancé quand sa fiancée lui sort tout ça? C'est toi tout seul, mais rien d'autre. Hein. Le reste, non. Je ne trouve pas que c'est quand même blessant. Et l'Église, elle a fait ça. L'Église occidentale, l'Église, elle a vraiment fait ça. Et donc, on ne peut pas connaître Jésus correctement si on ne connaît pas la profondeur du cœur de Dieu pour Israël. C'est énorme. Et nous, les chrétiens des nations, les chrétiens gentils, là, on découvre quelque chose de très précieux, d'unique, de très profond et en même temps une histoire douloureuse, hein, des deux côtés, du côté Dieu et du côté peuple d'Israël. C'est précieux, quoi. On pas touche. Enfin, pas touche de manière humaine, vous voyez ce que je veux dire. C'est des profondeurs du cœur de Dieu qui sont un peu au-delà de ce qu'on peut comprendre. Il n'y a que l'esprit qui peut connaître les profondeurs. Hein. Et il y a un prophète qui pourrait un petit peu, qui lève un peu le voile sur ces profondeurs, c'est le prophète Osée, pour montrer cette profondeur de cette relation de Dieu avec Israël. Donc voilà, ça c'est un aspect de Dieu, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de la relation d'alliance avec Israël. Mais si on veut connaître Dieu correctement, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, c'est pas possible. Et alors, qu'est-ce qui se passe sous les ailes du Très-Haut? Alors là, on va prendre un passage qui est extraordinaire. C'est, alors, si tu peux le projeter, c'est 2 Corinthiens 3. Et alors, moi je trouve 2 Corinthiens 3. Voilà, versets 16 à 18. 2 Corinthiens 3, 16 à 18. Tu l'as ? Voilà. Lorsque les cœurs se convertissent, en fait, le vrai terme, lorsque les cœurs se tournent vers Dieu, lorsqu'on décide de se détourner de nos recommandés, nos circonstances, nos relations difficiles, et qu'on se tourne vers Dieu, hein, il y a un voile qui est ôté. Un voile qui aveugle notre intelligence, qui aveugle notre connaissance de Dieu. Un voile de générationnel, culturel, familial, traditionnel, un voile est ôté. Et c'était tiré de Exode 34-34 quand Moïse rentrait dans la présence de Dieu et il était en intimité, en amitié avec Dieu. Il lui parlait comme un ami et le voile, il n'avait pas de voile là, il était rayonnant. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est dans cette présence de Dieu, il va petit à petit, progressivement, enlever tous les voiles. Et le visage découvert, en fait, le terme grec, c'est le visage dévoilé. Le visage sans voile. Et en grec, c'est très intéressant, le voile, ça se dit calypso, en fait. C'est apocalypse, ça veut dire révélation, on enlève le voile. Et là, c'est le même terme, c'est anacalypso, c'est-à-dire que le voile est détruit. Et calypso, en grec, il y a la notion de quelque chose qui est caché et qui est volé. Le voile, ça nous cache la réalité de qui est Dieu et ça nous vole, c'est du vol, ça nous vole l'identité de Dieu. Et l'ennemi, il nous a mis plein de voiles. Je peux vous dire, sur la France, il y a la dose. Hein. Sur la littérature française, il y en a des voiles, je peux vous dire. Hein. Des voiles négatives, des voiles noires, des voiles pessimistes, des voiles fatalistes, etc. etc. On a beaucoup de voiles, qu'on le voit ou pas, des voiles d'obscurité. Et donc, petit à petit, dans la présence de Dieu, il va enlever tous ces voiles, tout ce qui nous a été caché et volé, et en fait, contempler, ça a un double sens. C'est à la fois on contemple et à la fois on reflète. On contemple la gloire de Dieu et on reflète cette lumière. Et ça, c'est très fort. Nous contemplons, donc nous reflétons la gloire de Dieu et nous sommes transformés. Le verbe transformer, là, c'est métamorphoser et il est utilisé 4 fois dans le Nouveau Testament. Et en fait, il est utilisé une fois là, une fois dans, vous savez, Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Et les 2 autres fois, c'est la transfiguration. Il est utilisé pour parler de la transfiguration de Jésus. Donc c'est un terme fort. Nous sommes transfigurés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Et tel il est, tel nous sommes dans le monde. Soyez parfaits comme le Père est parfait. Nous sommes appelés à refléter parfaitement la lumière de Christ. Et donc c'est vraiment un appel très très fort et à rayonner de la gloire de Christ. Et ça c'est par la justice, nous sommes absolument justes, absolument acceptés, absolument, nous pouvons rentrer en tout temps et demeurer dans cette présence de Dieu très forte, comme Moïse le faisait par moments, mais nous c'est tout le temps. Et on peut passer à Ésaïe 30, alors là il y a aussi un passage où l'Éternel nous révèle la destinée de l'Église, Ésaïe 30, en fait on est appelé à rayonner de la lumière de Christ. Nous, on n'a pas de lumière en nous-mêmes. Hein. On n'a pas de lumière en nous. C'est Ésaïe 30, verset 26. Donc, c'est Christ, c'est notre lumière. Et nous, c'est pour ça qu'on compare Christ au soleil. Voilà. Et nous, on est comparé, l'Église est comparée à la lune. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de lumière en elle-même, mais simplement, elle est éclairée par le soleil. La lumière de la lune, là, on parle de l'Église, Église messianique et chrétien des nations ensemble, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Le soleil, ça parle de Christ. La lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Donc il y aura une puissance de révélation et on voit que le Seigneur, il enlève des voiles de manière de plus en plus accélérée. Il nous révèle sa présence. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, il guérira la plaie de ses coups. Et sous ses ailes, il y a la guérison. Il y a une puissance de guérison qui vient. On sait qu'elle vient, hein, Nadine. Il y a une puissance de miracle, de prodige, de guérison qui vient. Et puis l'Église va briller d'une manière extraordinaire. Pas par elle-même, mais juste parce qu'elle elle contemple, elle reflète la gloire de Christ et elle est une lumière pour les nations. Les ténèbres couvrent la terre, peut-être, mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Oui, ça, c'est avec puissance. Grande, grande puissance. Et dans cette suite d'Ésaïe 30, tu peux projeter peut-être la suite. Après, on voit qu'il y a un temps de jugement, vraiment un temps de jugement très fort qui arrive. Et ça s'est ébranlé de tous les côtés, les tours tombent, ça nous parle des forteresses de l'ennemi. Hein. Donc voilà, ça c'est un, on a un temps de jugement, sa colère est ardente, un incendie, c'est plein de fureur, etc. Ses lèvres sont pleines de fureur. Il y a vraiment un temps de jugement, et on le voit, c'est sûr, il y a un temps de jugement. Mais nous, est-ce qu'on doit craindre? Est-ce qu'on doit s'affoler comme, ou être rempli de choses négatives comme Lébédiane ou la Seine? Pas du tout, pas du tout. Nous, c'est la suite du chapitre qui nous le dit, on fait la fête. Et là, c'est après, tu peux continuer. Après, il y a quoi? Voilà, vous, c'est nous, hein, vous chanterez comme la nuit où on célèbre la fête. Et en fait, c'est la nuit de Pessah, la nuit de Pâques. On chante, on est dans la joie, on est dans la louange, dans l'adoration. Ça, c'est fort quand même. Les jugements tombent, pleuvent sur la terre, sur tous les systèmes d'iniquité. Et le peuple de Dieu est appelé à se réjouir. Vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui marche au son de la flûte, pour aller à la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel, ça parle de la présence de Dieu. Aller à la montagne de l'Éternel vers le rocher d'Israël. L'Éternel fera retentir sa voix majestueuse, il montrera son bras prêt à frapper, dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme, d'un feu dévorant, de l'inondation, tempête, pierre de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera, l'Éternel frappera de sa verge. Et en fait, le mot verge, c'est le mot sceptre d'autorité. Et ce sceptre, nous l'avons. Rappelez-vous, là, l'épouse de Christ, elle a le sceptre d'autorité. On a ce sceptre pour appeler des jugements, c'est le psaume 149 qui le dit aussi, appeler des jugements sur tout ce qui est inique au milieu de nous et dans notre nation. Donc l'Éternel frappera de sa verge, continue. Depuis longtemps, un bûcher est préparé pour le roi. Donc là, c'est le roi des ténèbres. Hein. Il est profond, il est vaste. Son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent de soufre. Et en fait, la petite note dans Thomson nous dit que le roi, ce roi-là, ce serait Moloch. Celui à qui on sacrifie des générations d'enfants, des générations de jeunes. Mais il y a un jugement qui est préparé sur Moloch, pour que la génération qui vient, qui est là, elle ne soit plus sacrifiée comme toutes les autres générations, mais qu'elle soit une génération d'adorateurs. Hein? Nos jeunes, nos enfants, nos petits à la mamelle sont appelés à être des adorateurs. Et il y a un jugement qui est là sur Moloch. Il y a une église extraordinairement belle, extraordinairement glorieuse, qui se lève avec l'autorité de l'épouse et qui va appeler des jugements sur Moloch et sur les autres. Donc il y a quelque chose de très, très fort dans le fait d'être sous les ailes du Très-Haut. Et il y a vraiment un contraste qui sera de plus en plus énorme. Vous savez, les nations sont ébranlées, etc. Mais il y a un fleuve qui réjouit la cité de Dieu. Et nous, on descend dans ces courants. Il y a la joie. Levez-vous, relevez la tête, votre délivrance approche. Il y a vraiment la joie qui est là. Et il y a une plénitude. Mais attention, évidemment, ce n'est pas que pour nous, égoïstement, dans notre bocal église, évidemment, évidemment. Ces courants, ils sont appelés à couler dehors, évidemment. Et ces courants, on est appelé à être ces arbres plantés, dont les racines sont très, très, très profondément vers l'eau vive de la présence de Dieu. Et ils portent du fruit, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quelles que soient les circonstances, ils portent du fruit. Et ces fruits, qui c'est qui va les manger? C'est les gens autour de nous. Cette semaine, je rendais visite à quelqu'un, je ne dirais pas le nom, et je disais, mais... C'est comme un arbre avec plein de sortes de fruits. Il n'y a pas qu'une sorte. Hein. Chaque branche a une variété différente. C'est des arbres complètement extraordinaires, miraculeux. Et on porte, imaginez, visualisez-vous, vous êtes solidement enraciné, vous étendez vos racines vers le courant en profondeur, et quelles que soient les circonstances, il y a des fruits abondants, permanents, sur vos branches. Quelles que soient les saisons, hein, hiver, été, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des fruits. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps verdoyant. Et il y a plein de gens, de plus en plus de gens qui viennent goûter aux fruits parce qu'ils sont variés, ils sont exquis, ils sont de bonne qualité. Et voilà. Et puis, il y a un autre passage qui est très fort aussi pour dire que en fait, l'Église est appelée à être une grande bénédiction pour les nations. C'est dans Ésaïe 32, il y a un passage qui dit « Les princes, chacun de ces princes, c'est nous, hein, les princes et princesses, c'est nous, on sera, chacun de nous, un abri. » Alors, il est où ce passage? Ésaïe 32. « Chacun de nous, on sera un abri contre la tempête. On sera un refuge. Chacun de nous, hein, on sera une source de vie. » Tu le vois? Je trouve mon passage. C'est Ésaïe 32. On parle des princes. Ah oui, Ésaïe 32, verset 2. Tu peux le projeter? Ésaïe 32, verset 2. « Chacun des princes sera comme un abri contre le vent. » Donc, c'est chacun de nous dans ce lieu. Chacun sera comme un abri contre le vent, un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Chacun de nous. Et ça, c'est une destinée. Dieu veut bénir le monde à travers nous, ça c'est sûr. Et la première chose à faire, nous, c'est demeurer sous les ailes du Très-Haut. Et nous porterons beaucoup de fruits. Alors j'avais... Oui, il y avait aussi peut-être une dernière chose à dire. Quand on parle de la... Dans Cantique des Cantiques, on parle de celle qui est belle comme la lune. Hein, donc ça nous parle d'Église. Et juste après, on dit elle est terrible comme une troupe sous les bannières. Et en fait, c'est ce paradoxe apparent, hein, qu'à la fois, on est une magnifique épouse, imaginez, en vêtements de gloire, quoi, hein, psaume 45, vêtements de broderie d'or, etc. Et en même temps, on est des extraordinaires guerriers. Vous voyez, c'est en même temps. C'est un peu spécial. Et en fait, on est absolument appelé aussi, toujours dans cette intimité, à revêtir toutes les armes d'Éphésiens 6. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus sur Éphésiens 6, mais simplement, en retravaillant ce passage d'Éphésiens 6, hein, revêtez-vous de tout l'équipement, hein, pour tenir ferme, ce qui veut dire que Dieu nous a promis une victoire totale, absolue sur tout. Mais il y a un équipement dont on doit se revêtir. Et en fait, chaque pièce de l'équipement, c'est Christ. C'est Christ. La ceinture de la vérité, c'est Christ. L'épée de la parole, c'est Christ. Les chaussures du zèle, le zèle, l'amour de Dieu, c'est Christ. Tout parle de Christ. C'est en fait, on se revêt des armes de la lumière, on se revêt de Christ, et on tient, on est inébranlable, et on prend du terrain, et on porte du fruit, et on est rempli de gloire, etc., etc. Et attention, on est transformé de gloire en gloire, en gloire, en gloire. C'est ça, parce qu'on ne supporterait pas, hein, tous les voiles enlevés d'un coup, on ne supporterait pas, il y en a beaucoup. Hein. Voilà, je crois qu'on pourrait juste terminer peut-être par un... Alors, je pensais, parmi nous, il y a peut-être trois sortes de personnes. C'est-à-dire qu'il y a... Enfin, il y a encore, oui, peut-être que c'est mélangé aussi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être ceux qui sont un peu dans Moab, hein, qui sont vraiment loin de tout ça, et qui se disent, oula, est-ce que j'ai envie d'aller vers Bethléem, dans la maison du pain? Est-ce que j'ai envie de revenir dans la maison du Seigneur si je me suis écartée? Puis il y a ceux qui sont dans les champs, qui glanent, qui travaillent, ils ont la provision, ils ont la protection, mais bon, c'est... Voilà. Et ils se rendent compte qu'il y a tellement, tellement plus. Il y a ceux qui sont peut-être déjà dans la maison, ils sont l'épouse de Boaz, et peut-être comme notre ami tout à l'heure, c'est un coup oui, un coup non, un coup présent de Dieu, un coup j'agite par moi-même, je panique, ou je m'énerve, ou je perds, je me perds dans les difficultés relationnelles, et j'aurais tellement, tellement demeuré, aller plus loin. Et puis il y a peut-être parmi nous aussi ceux qui veulent aller plus loin, connaître plus de Dieu, et qui se rendent compte que peut-être qu'ils sont un petit peu usés ou un petit peu assis dans cette quête de Dieu, où ils ont perdu un peu de cette violence pour acquérir cette connaissance. Vous voyez, ils ne sont plus trop chasseurs de Dieu. Ils sont juste, voilà, on vivote dans le quotidien de ce qu'on sait déjà, alors qu'il y a tellement, tellement plus. Alors voilà, je crois que le Saint-Esprit voudrait agir dans toutes ces situations. Il est où, Werner? Voilà, agir dans toutes ces situations par rapport à toutes ces... Le Seigneur sait exactement où chacun de nous se trouve, et son désir, c'est de nous amener beaucoup, beaucoup plus près de son cœur.
Merci Anne pour ces paroles. Simplement, j'invite ceux qui aimeraient se positionner dans ce qui a été dit et de vraiment de marcher avec cette connaissance de la présence de Dieu, de ne pas nous tourner vers nos circonstances, de nous laisser balloter à partir de demain matin, mais que vraiment nous soyons fermes, que nous marchions avec cette provision de Dieu, cette protection de Dieu sur nous. Je vous invite simplement à vous lever et de dire, oui Seigneur, à la place là où vous êtes, je veux me positionner. Alors peut-être sur différents niveaux, comme l'a expliqué Anne, il y a peut-être différents pas à faire, mais simplement que nous puissions ce matin nous positionner, dire oui, moi je veux compter sur le Seigneur, je ne veux pas dès demain matin de nouveau être découragé et laisser les circonstances me submerger. Et j'aimerais prier pour vous. Seigneur, merci pour ta révélation. Merci parce que tu enlèves le voile et tu nous montres la vérité. Et merci parce que là où est ton esprit et la liberté, nous voulons marcher dans la pleine liberté. Seigneur, ce matin, nous nous positionnons et nous disons que nous ne voulons plus être dans l'obscurité, nous ne voulons plus être à l'ombre des voiles, Nous ne voulons plus être ballottés par les circonstances, mais vraiment nous voulons regarder à toi, Seigneur, et resplendir de ta lumière. Seigneur, nous voulons aussi te demander pardon toutes les fois où nous avons pris nos propres outils, où nous avons compté sur nos propres forces. Seigneur, nous voulons vraiment laisser ces choses et prendre ce que tu as pour nous. Saint-Esprit, nous t'accueillons sur nos vies, dans nos vies, et nous voulons marcher avec toi aussi ces jours qui viennent. Je prie que pour chacun de vous, il y ait cette semaine déjà quelque chose de concret qui se passe. Que vous puissiez vraiment reconnaître, oui Seigneur, tu es là. Tu as changé quelque chose dans ma vie, dans mes circonstances. Et je vous bénis les uns et les autres dans le nom de Jésus, dans la présence de Jésus qui vous accompagne. Amen.
Dans le temps de louange, j'ai pratiquement reçu le message qu'Anne, elle a partagé, et je n'avais pas à cœur à venir devant. Mais je crois que c'est un temps maintenant précis. Il y a vraiment des gens qui doivent faire une alliance avec Yeshua, parce que vous êtes dans un carrefour de vos vies, et il y a vraiment une décision à rentrer dans le Jourdain. Et c'est une position à avoir avec le Seigneur. C'est, comme il a été dit, c'est pas par nos forces, mais c'est par son esprit. Et son esprit, il est vraiment en train de bouger. Et personnellement, moi, j'invite les anciens à venir pour que vous puissiez recevoir la prière, parce que c'est pas facile de passer le Jourdain. Je sais pas si vous avez été déjà dans le Jourdain. Tu peux te noyer, hein. Si tu ne sais pas comment il faut passer, tu peux te noyer. Et le chemin et la décision que tu dois prendre, tu ne la prends pas seul. Tu la prends avec le corps de Christ qui est là et qui confirme ton appel et ta destinée. Et je crois que c'est vraiment une invitation. Et j'aimerais aussi dire, il n'y a pas d'âge. Tu peux avoir 8, 9, 10 ans et tu ressens l'appel de Dieu sur ta vie. Et souvent, nous, en tant qu'adultes, on a été des freins pour que cette jeune génération, elle puisse entrer dans le Canaan promis. Parce qu'il y a un Canaan qui est promis, même s'il y a des bruits de guerre. Yeshua, il dit, vous inquiétez pas des bruits de guerre, relevez votre tête parce que votre délivrance, elle approche. Et le signe de Pessah qu'elle a dit, c'est « sors de tes limites ». Yeshua, il te dit aujourd'hui, sors de tes limites. Moi-même, je dois sortir de mes limites tous les jours. Et c'est un engagement. C'est un engagement avec lui. Regarde pas au péché, à ce qui te lie encore. Le fait que tu rentres dans le Jourdain, il te nettoie. Il te purifie et il te donne l'onction pour aller conquérir ton Canaan. Donc, personnellement, moi, je crois que le temps, il n'est pas encore fini. Laisse un peu le steak frites de côté, là, et approche-toi, parce que Dieu, il veut vraiment t'impacter. Dieu, il veut nous impacter pour ce pays et pour les pays qu'il a mis dans ton cœur.
Et Seigneur, Saint-Esprit, viens bouger au milieu de nous et viens attiser par le feu de ta présence, viens attiser le désir de toi. Que ce soit un désir inextinguible, un désir qui nous pousse en avant à te chercher, à te poursuivre. Qu'on voit, ouvre nos yeux, qu'on voit combien tu es immense, combien tu es passionnant, combien tu es extraordinaire. Et qu'on soit des passionnés de toi, juste pour toi. Notre plus grand héritage, c'est toi-même. Ce n'est pas tout ce que tu peux donner, c'est toi-même. Et qu'on soit des passionnés de toi, pour ta personne, pas seulement pour ce que tu peux donner, pour ta personne. Alors Seigneur, dans ta bonté, tu viens enlever tous les voiles qui couvrent encore ton Église de France, qu'elle puisse se lever dans toute la beauté de qui elle est, uniquement par grâce, Seigneur. Et on dit aussi révélation de la plénitude de grâce, que personne au milieu de nous ne reste sous le joug de l'accusation, sous le joug de la culpabilité. Il y a plénitude de grâce. surabondance de grâce, quelles que soient les erreurs, les fautes. Alors viens révéler aussi l'immensité de ta grâce absolument, totalement disponible en tout temps. Et que nous puissions demeurer dans ta maison, tous les jours et à toute heure de notre vie. Demeurer dans ta maison. Amen.